Alors, on est là pour parler de Videolan. Oula. Ouais, Videolan, en fait, c'est une association, loi 1901, qui existe depuis quelques années. Mais en fait, c'est un projet qui date d'il y a très longtemps et dont le but, c'est que les cônes deviennent les maîtres du monde. Alors, c'est une histoire complètement débile et complètement délirante qui commence à peu près il y a 20 ans à l'École Centrale Paris. Donc ça, c'est le super campus de l'École Centrale Paris, perdu à 20 km au sud de Paris, avec absolument rien à foutre. L'histoire, elle commence en fait dans les années 60. L'École Centrale Paris, qui s'appelait à l'époque l'École Centrale des Arts et Manufactures, était à Gare de Lyon et il n'y avait pas assez de place. Donc l'École Centrale Paris, contrairement à la plupart des grandes écoles, c'est une école qui dépend de l'éducation nationale, et l'éducation nationale, ça n'a pas d'argent. Donc... Effectivement, ils décident de construire une nouvelle école, et puis bah, comme ils n'ont pas le pognon et que le terrain ça coûte cher en région parisienne, ils décident donc, puisque l'école s'appelle Centrale, de la mettre à Clermont-Ferrand. Non mais, c'est vraiment pas une blague, hein, c'était vraiment les plans. Et là, il y a des anciens élèves qui ont fait « Oh là 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 là, oh là là, ça nous fait chier ». Et donc ils sont allés trouver un truc à côté du parc de Sceaux, c'est ce que vous voyez en haut à droite. Ils ont acheté un terrain. Vous inquiétez pas, hein, je parle de VLC, hein, y a pas de souci. Hein. Ils ont acheté un terrain, ils arrivent, ils posent leur terrain et ils disent à l'école, écoutez, nous on a un terrain, on a construit le campus, c'est ce que vous voyez, tous les bâtiments là à peu près, et puis bon ouais, quand même il faut qu'il y ait des cours, alors construisez votre machin en haut, mais grosso modo, allez-y, mais c'est nous qui avons le campus. Donc en fait c'est intéressant, c'est une école qui n'a pas son campus, puisque le campus appartient en fait aux anciens élèves. Et c'est très important pour la suite. Donc qu'est-ce qui se passe dans les années 80? Je ne sais pas pourquoi IBM et Bouygues, qui avaient construit la résidence, arrivent et mettent du réseau, qui était du token ring. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est le token ring? D'accord. Alors, le token ring, c'est donc un réseau, je vous explique, c'est un réseau qui est donc en boucle, comme son nom l'indique. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, quand on veut parler sur le réseau, donc tout le monde est sur la même boucle, et on prend le jeton, le token, et on parle, et voilà. Alors, dans les années 80, quand c'est pour faire du mail, du gopher et du telnet, bon, grosso modo, ça va, quoi. Le problème, c'est que dans les débuts des années 90, on commence à jouer à Doom, et non, mais je vous raconte vraiment l'histoire de pourquoi on a commencé VLC, hein. C'est vraiment une histoire de « j'avais envie de jouer à Doom ». Et donc, le problème, c'est que plus t'as cons qui sont sur ton réseau, plus ta latence est grande. Et donc, bah, tu peux pas fraguer tranquille, et donc, ça fait chier. Donc, 91, 92, 93 régulièrement, donc les étudiants, puisque en fait c'est une association qui s'appelait VIA, Centrale Réseau, qui arrive et qui va voir l'école et disant, écoutez, le réseau Token Ring, c'est vraiment, on pourrait avoir un nouveau réseau. Et alors là, l'école dit, oh, on voudrait tellement vous aider, mais vous comprenez, le campus, il nous appartient pas, on peut rien faire pour vous. Et en fait, l'idée c'était, en fait, grosso modo, vous en avez besoin pour jouer aux jeux vidéo. Alors, maintenant, c'est peut-être un peu plus logique, mais 93, on est vraiment avant le début du web grand public, puisque vraiment le web grand public, c'est 95-96 pour les early, quoi. À peu près au moment de l'ordinateur là-bas, le Pentium 75. Donc voilà. Donc ils se font un peu chier, et puis il y a quand même quelqu'un qui dit, bah, je vais aller voir des industriels, parce que... on va voir ce qu'ils peuvent nous dire. Donc ils vont voir Bouygues, et il y a un gars de Bouygues, en fait, qui... Donc Bouygues, à ce moment-là, c'était aussi TF1 et le début du satellite, CanalSat, les anciens de CanalSat, et il y a un mec qui dit, écoute, nous on a commencé à faire joujou sur du numérique avec la télé, mais si jamais vous êtes capable de prendre le flux télé du satellite et de le balancer sur votre réseau, donc de détruire votre réseau, parce qu'un truc token ring, jamais il prendra ça, et de décoder sur chacun des PC, je vous paye un nouveau réseau. Vous, ça vous semble pas logique, mais là on est en 95, donc c'est 12 ans avant YouTube, c'est avec des 486 ou des Pentium 90, donc faire du décodage vidéo MPEG-2, donc les DVD quoi, audio et vidéo sur un soft, c'est de la science-fiction quoi. Et les mecs disent, mais vous êtes complètement barge, et puis les étudiants disent, ok, on va essayer. Et donc, ils avaient envie de jouer à Doom. Ici, là, sur le bâtiment B, En fait, ils installent une antenne satellite et ils se mettent. Et donc, ils bossent pendant. Bon, grosso modo, il leur faut un an pour. Avec des histoires de taxes d'apprentissage, taxes professionnelles. Enfin, ceux qu'on connaisse un peu ça, c'est un peu compliqué. Et puis, ils commencent à coder et à la fin, ils ont donc une démo au bout d'un an et demi qui marche. Donc, la démo, elle dure 30 secondes parce qu'au bout de 40 secondes, il n'y a plus de RAM dans le PC parce qu'il y a forcément des magiques. Mais ça, on ne le dit pas. Et ils sont capables, de, sur une sorte de Linux, de faire fonctionner ce truc-là. Et c'est un succès. Et ils sont trop contents. Et le projet s'appelait donc Project Network 2000. Wouh ! Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que arrive, en fait, voilà, à Centrale Paris, arrive le projet Videolan. Ça arrive. Voilà, hop. Donc, c'est ce que je vous disais, le premier projet. Et puis, donc, ils décident, en fait, en 98, de recommencer le projet, mais avec plusieurs idées en tête. La première idée, c'est qu'ils veulent que ce soit open source, et que ce soit réutilisable à l'extérieur, parce qu'ils disent qu'il y a d'autres gens qui peuvent en avoir besoin, que ce soit modulaire, et que ce soit cross-platform. Alors attention, je vous calme, cross-platform, là, l'idée, c'était d'être à la fois sur BIOS et Linux. Hein, le reste, on s'en foutait. Network-oriented, ça, c'est super important, parce que c'est une des décisions qui va faire que VLC va devenir hyper populaire. C'est un lecteur qui doit être un lecteur pour lire des flux réseau. Et puis, bah, c'est un projet étudiant. Voilà. Ça leur prend à peu près 2 ans à se battre avec l'école pour transformer tout ça en GPL, puisque l'école, en fait, avait comme seule idée, c'était de récupérer le décodeur MPEG-2, de le revendre, licence, etc. Sauf que bah, c'était les étudiants qui faisaient ça sur leur projet de deuxième année. Ils avaient 150 heures, ils n'avaient pas envie de bosser gratos pour l'école, grosso modo. Dire que c'est pas des gentils, mais en tout cas, est-ce que ça marche? Yes. Voilà. Videolan, en fait, ça fait plein de projets. Et c'était donc un groupe de projets. Il y a plein de projets qui sont morts. Ça fait partie du deal. Mais il y en a deux qui sont, enfin, il y en a deux qui étaient assez connus à l'époque. Il y avait donc Videolan Client, qui est devenu donc VLC, hein, puis VLC Media Player. Et puis il y avait un serveur qui s'appelait Videolan Server. Et donc, il s'appelait VLS. Puis, il y avait plein d'autres trucs complètement délirants, notamment une façon de faire du multicast sur un réseau qui ne supporte pas du multicast avec des VLAN. Si un jour, il y a des gens qui ont l'estomac, je vous raconterai. voilà, il y a plein de bibliothèques, de décryption DVD, décryption de Blu-ray, etc. Et donc, c'est plein de projets qu'on hausse. Mais évidemment, celui que les gens connaissent bien, c'est Videolan de ces VLC. Et le deuxième projet que les gens connaissent bien, c'est X264, qui est donc le meilleur encodeur au monde de vidéo, qui est utilisé par tout le monde, aussi bien par les pirates, évidemment, que par YouTube, Facebook et tous ces gens-là qui n'utilisent évidemment que ça. Alors ça c'est le schéma qui avait été fait en 2003, donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, rien n'a changé. Donc, à part qu'il y a certains projets qui sont morts. Mais donc, on avait vraiment l'idée, c'était on prenait tous les inputs, que ce soit un fichier, un DVD, le satellite ou la TNT. On prenait avec VLC, soit on le rencodait et on l'envoyait sur le réseau, soit avec VLS. Et puis, on voyait, et puis on avait des clients. Et donc, ça, c'était vraiment le projet Videolan. C'était vraiment l'ensemble de la solution. VLC, en fait, c'était juste, à l'origine, juste un des clients. Et puis ensuite, c'est devenu la chose plus connue. Alors, juste un petit point. L'idée d'open source, c'est clair pour tout le monde? Ouais. Alors, tu me tutoies parce que je suis pas vieux. Et je vais le prendre hyper mal. Ça, c'est clair. La différence entre open source et free software? Ouais. Bon, ça commence à être un peu plus compliqué. Alors, c'est quoi l'open source? L'open source, c'est comme la cuisine. C'est la seule façon d'expliquer en fait, aux gens facilement, c'est la cuisine. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites de la cuisine? Grosso modo, vous avez une recette qui arrive. On vous dit, prenez 100 g de sucre, 20 g de beurre, etc., du chocolat. Et vous suivez la recette, et puis, de façon assez basique. Et à la fin, ça vous fait un gâteau au chocolat. C'est grosso modo assez facile. Et puis, quand vous allez au restaurant, en fait... vous allez chez un grand maître, et puis là, il sort une sorte de moelleux au chocolat avec des trucs, des copeaux, etc. Vous voyez le truc, et vous n'avez absolument aucune idée de comment il l'a fait. Parce que d'abord, il y a les 3/4 des ingrédients, on ne sait pas ce que c'est. Et puis ensuite, avec votre four, jamais vous arrivez à faire ça. C'est exactement la même chose pour l'informatique. En fait, donc les programmeurs écrivent en fait, du code qui est transformé en, en instruction élémentaire, mais qui est en fait finalement juste une très longue recette de cuisine. Il faut faire ça, c'est juste qu'on vous donne tous les ingrédients, toutes les instructions, on vous donne même les paramètres du four, le compilo, et on vous dit juste, et en fait ça marche. Et donc en fait, pendant très longtemps, des grosses boîtes comme Bill Gates, dont on parlait tout à l'heure, en fait ils vous donnent juste le résultat final, le gâteau, hein, word.exe, vous double-cliquez, ça marche, ou pas. Mais en tout cas, vous n'avez jamais accès à la recette. L'idée en fait du logiciel libre, c'est de se dire que tous ensemble, en fait, on peut améliorer la recette ensemble. Donc par exemple, vous arrivez, votre grand-mère vous a donné une recette de gâteau au chocolat, et puis vous dites, ah, il n'est pas assez salé quand même, pas assez sucré, je vais rajouter 20 grammes de plus de sel et 30 de sucre. Whatever, on s'en fout, c'est complètement débile, mais c'est pas grave. Et il y a un mec qui va dire, ah bah tiens, essaye. Puis il y a un autre qui va dire, ah, c'est pas mal, mais en fait, au lieu de mettre ton four à 200, 222 degrés, mets-le à 212. Et en fait, comme ça, chacun va améliorer et transmettre non seulement la recette pour que tout le monde soit capable de faire le meilleur gâteau au chocolat. C'est super important parce que ça permet, en fait, enfin, finalement, toute votre vie va passer devant des écrans ou derrière des écrans. De toute façon, je pense qu'il n'y a quasiment plus aucune activité de votre aujourd'hui que vous faites qui est à part la pêche quand vous y allez. Et encore. Puisque de toute façon, les gars qui ont conçu votre canne à pêche, ils l'ont fait derrière un PC. Donc en fait, l'intégralité de ce qui va se passer en fait, est de façon numérisée. Tous vos loisirs sont numériques. Une bonne partie de votre boulot est finalement numérisé. Donc c'est super important de comprendre ce qui se passe. Parce que malheureusement, quand il y a un ordinateur, ça fait, c'est complètement débile, mais ça le fait très très vite. Et c'est vrai, le nombre de fois où tu vois des gens qui s'énervent devant leur PC, ah, oh, il fait pas ce que je dis. Non, 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 il fait ce que tu dis, hein, ça c'est sûr. Hein. Par contre, tu le fais mal. C'est super important parce que c'est la seule façon de savoir, par exemple, qu'il n'y a pas du cyanure dans votre gâteau au chocolat, c'est d'avoir la recette. D'accord? Voilà, donc l'open source, il y a des mecs absolument géniaux, notamment Richard Stallman, je troll parce que c'est quand même un mec qui est globalement un philosophe génial, qui a donc ouvert la voie. Je pense juste personnellement qu'il est un peu has-been, mais c'est des gens qui ont justement vu, et vous lirez, et je vous conseille de lire, par exemple, le droit à lire qu'il a écrit il y a 10 ans, et enfin c'est une dystopie, et on y arrive, mais en courant. Qu'est-ce que c'est le logiciel libre? Alors là, on commence déjà à être un peu plus technique. C'est donc l'open source, en fait, c'est juste on donne la recette. Mais en fait, juste donner la recette, ça ne veut pas dire qu'on vous donne tous les droits associés. Par exemple, on peut dire, tiens, regarde la recette, comme ça tu peux vérifier que tu peux faire bien le gâteau, mais on ne te donne pas, par exemple, le droit de revendre le gâteau. Logiciel libre, c'est vraiment une idée de liberté et de capacité, en fait, d'étudier, de modifier, d'améliorer, de faire vraiment ce que vous voulez avec le logiciel. Et donc, c'est aller plus loin, et c'est ce qui est assez important. Mais quand même, l'important, et pour beaucoup de gens, c'est la différence entre open source et logiciel libre est vraiment trop ténue. Alors, le multimédia. Bon, donc voilà, donc Videoland, c'est donc un projet qui fait de l'open source et du multimédia. Alors, qu'est-ce que c'est le multimédia? Définition, quelqu'un? Non? Grosso modo, le multimédia, c'est la lecture synchronisée d'un ensemble de flux qui vous permettent de recréer plusieurs sens. Voilà. Donc, ça veut dire que potentiellement, vous avez de façon temporelle du son, de la vidéo pour vos oreilles, mais aussi par exemple, on pourrait avoir un truc qui diffuse des odeurs ou quand vous avez les IMAX 4K 4 dimensions, du toucher, des choses comme ça. Et tout ça, c'est synchronisé. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être beaucoup, notamment si vous voyez des trucs d'artistes très compliqués. Souvent, en fait, quand on parle multimédia, maintenant on parle vraiment de la partie vidéo, c'est-à-dire on joue une piste de sous-titres, une piste d'audio et une piste vidéo en même temps, comme quand vous allez au cinéma. Le problème du multimédia, c'est que c'est n'importe quoi. Alors, le multimédia, c'est n'importe quoi pour deux raisons. Il y a deux règles. C'est que dans le multimédia, s'il y a une façon de faire un truc complètement idiot, il y a quelqu'un qui va le faire et qui va se plaindre jusqu'à ce que ce soit un standard. Donc, en vrai, tous les standards que vous voyez dans le multimédia, c'est tous entre du complet what the fuck à du catastrophique n'importe quoi. Pour plein de raisons, hein, notamment des raisons économiques, où grosso modo, bah, ils n'ont pas réfléchi à ce qu'ils voulaient faire, et puis bah ouais, bah on a notre encodeur vidéo qui produit ce format-là, ça coûte 100 000 euros de changer mon encodeur, et bah c'est pas grave, on va modifier tout le reste après, et ça va être n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui lis les vidéos. Et le deuxième point, c'est dans le multimédia, tout le monde pense qu'il sait tout, alors qu'en fait, il sait pas grand-chose. Le nombre de gars que tu lui vois, oh, j'ai trouvé un tuto, je prends ce format, cet encodeur, je mets ça dans ce format, du MP4, ah, c'est de la vie, oh, c'est pas grave, parce que, etc. Il y en a partout. Alors, ça s'est un peu calmé quand même, mais dans les années 90-2000, notamment au moment où on a commencé à faire pas mal de piratage et les DivX et les tutoriels, etc., c'était absolument n'importe quoi. Le résultat, c'est qu'en fait, bah, c'est globalement le bordel. Voilà, donc il y a un syndrome not invented here absolument partout. Il y a 42 façons de faire tout, et bien sûr, les meilleures façons ne sont jamais celles qui sont utilisées. Tout ce qu'on appelle les formats vidéo, c'est-à-dire MP4, AVI, OGG, MKV, etc., ils sont tous absolument catastrophiques, voire calamiteux. Pendant là, on vient de se taper 10 ans de web avec un format qui s'appelle le FLV, qui est quand même absolument, qui est encore moins fonctionnel que l'AVI, qui quand même date du début des années 80. Faut quand même le faire. Les mecs de l'open source, ils adorent un format qui s'appelle OGG, qui est absolument catastrophique, calamiteux et complètement pourri. Pour vous donner une idée, hein, juste pour être capable de connaître les temps de la vidéo dans le log, ça dépend du codec. Donc ça veut dire que normalement, vous avez donc votre. Donc le conteneur, en fait, c'est donc finalement votre petite boîte qui vous donne grosso modo une longue timeline en vous disant bah voilà, toutes les secondes, et qui vous donne les blocs à décoder et à afficher. Et bah, voilà, dans le log, par exemple, il faut lire dans le décodeur pour être capable de l'afficher. Voilà. Voilà. Des codecs dans VLC, il y en a, je sais pas, 300, 400, 500 peut-être. Avec bien sûr chacun, notamment le H.264, une douzaine de profils et à peu près 6 ou 7 levels. Voilà. Et puis bien sûr, il y en a tout. Alors, c'est le bordel, mais le résultat, bah, c'est bien pour nous, puisque nous, on est capable de le faire. Et c'est pour ça que VLC, c'est connu. Ouais, bon, voilà, je continue, il y a encore plein d'exemples de trucs tout pourris. Et puis en plus, on a les gens du web qui sont géniaux, qui bien sûr n'ont jamais fait de vidéo de leur vie, mais ils savent tout. Et nous ont pondu des trucs géniaux comme le Web VTT ou le HLS et l'Adaptive Streaming, qui sont bien sûr de la merde. Bon, bref, voilà, le multimédia, c'est le bordel, mais c'est cool parce que résultat, c'est ça qui est intéressant. Notamment dans le multimédia, il y a des choses qui sont très mathématiques, donc qui sont finalement très compliquées mathématiquement, avec des transformées de Fourier, des transformées en cosinus discret, des ondelettes, donc plein de choses très intéressantes mathématiquement. Donc c'est très compliqué et en plus c'est très complexe parce que, bah, comme vous avez vu, il y a 28 milliards de formats, 28 milliards de... Et donc réussir à faire une solution qui marche à peu près partout, bah, c'est quand même super chaud. Et voilà. Et là arrive le cône, le VLC. Donc bah, souvent ça arrive, hein, j'arrive et je dis bonjour, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Moi je bosse sur VLC. Non, non, non. Si, 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 le cône là, le truc là, qui sur ton PC qui lit le vidéo. Ah oh ouais, le cône qui lit le vidéo. Ouais. Alors, évidemment, c'était une idée complètement débile de choisir un cône pour une application. Mais en fait, c'est génial. Parce que personne de sain d'esprit prendrait ça. Et donc, résultat, c'est hyper reconnaissable. Tu vas partout, bah oui, le cône qui lit les vidéos. C'est impossible d'en changer, même si tous les mois, on a un mec qui nous dit qu'il faut changer. Mais bien sûr, on ne le fera pas. VLC, ça a été connu parce que ça lisait tous les formats. Et notamment, notamment, un moment. Alors, ouais, je sais pas, il y a des gens qui ont utilisé Kazaa, Emule. Ouais, un peu. Ouais. Idonkey. Ouais, voilà. Alors, bon. On est en 2003, 2004, on a des 56K ou des ADSL pour AV. Télécharger un film de 700 mégas, ça te prend à peu près 24 heures. Il y a des gens encore. Je suis désolé. Vraiment. Bref, donc je commence à télécharger mon truc. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, au bout de 50 mégas, tu as quand même envie de savoir si, alors que tu étais en train de télécharger ton Disney, c'est bien ton Disney et pas un gros boulard de film adulte, etc. Ou l'inverse, si tu télécharges ton film adulte, t'as pas envie de te retrouver avec ton Disney. Et en fait, la raison pourquoi en fait c'est très VLC a été utilisé pour ça, c'est que comme vous avez bien sûr écouté tout à l'heure et je vous ai dit que VLC était un lecteur network oriented, en fait VLC, donc les DivX en fait c'est dans la vie. Et en fait, les informations elles sont à la fin du fichier. Donc en fait, quand tu utilises Windows Media Player ou même la plupart des autres lecteurs, ils arrivent et ils font ah ben je vais à la fin du fichier, ah ben non, tu l'as pas téléchargé. Et puis ben ils te font bah désolé, tu peux rien faire. Donc VLC en fait, comme c'est un lecteur réseau, dès le début, il fait bah ok, bon j'ai pas toutes les informations, mais je vais voir ce que je peux faire, puisque en fait dans le réseau les choses elles arrivent le long. Et donc en fait VLC pendant, très rapidement était capable de lire des fichiers avant que tu aies fini de les télécharger. Et donc c'est quand même globalement pas mal. Or bon, évidemment ça marche toujours, hein, même avec BitTorrent ou d'autres choses comme ça. Mais bon, pour certaines personnes c'est un peu plus rapide. Peut-être pas pour d'autres. Ça c'est une des raisons pour laquelle VLC est devenu très connu. Et la deuxième raison, c'est que comme justement on voulait que ce soit cross-plateforme, ça a été très vite, ouais, voilà. Ça a été très vite porté sous macOS et sous Windows. Donc en fait, c'est devenu ouvert en 2001 en GPL et en 2002, ça marchait déjà sous macOS et sous Windows. Et notamment, en fait, c'était finalement la seule façon de lire des DVD sous Mac. Et donc c'est pour ça qu'on a eu pas mal. Bon, VLC, ça marche. Donc comme je vous ai dit juste avant, ça lit tout et ça marche partout. Mac, Windows, Linux, BIOS. Alors, on vient de voir tout à l'heure que ça ne marchait pas sur MenuOS. On va travailler là-dessus. Par exemple, le port actuel de VLC marche très bien sous OS 2. Donc, les 5 gars au monde qui utilisent OS 2 sont très très contents. Très très content. Évidemment, on marche sur toutes les formes de BSD, Solaris et autres trucs comme ça. On a dernièrement, évidemment, sur Android, iOS, Apple TV. On va en reparler. Voilà. VLC, c'est un logiciel qui est quand même très téléchargé. On parle à peu près 1 million de téléchargements par jour. 2 tiers, ça doit être des mises à jour et 1 tiers, ça ne l'est pas. Sur notre site web, on a compté plus de 2,5 milliards de téléchargements. Donc ça, c'est à l'extérieur des distributions Linux ou des télécharger.fr et tous ces gens qui, évidemment, ont le droit, puisqu'ils ont le droit de redistribuer VLC. C'est installé sur un Mac sur 6 et c'est dans le top 15 des logiciels sous Windows. Ce qui est quand même pas mal pour un logiciel qui a été géré par des étudiants pendant très longtemps. Comme j'aime bien le dire, c'est donc le logiciel français le plus utilisé au monde et le moins rentable. Alors, VLC, ça lit tous les formats. Comme je disais tout à l'heure, ça lit les DVD depuis très longtemps. Ça lit les Blu-ray, mais pas chiffrés. Je sais pas si c'est suivi dans la presse. Je me suis pas mal battu avec Adobe pour ça. Ça a été assez marrant. Évidemment, tout ce qui est network et tous les fichiers. Donc, c'est non seulement tous les formats, mais aussi toutes les sources. Alors, je vais vous montrer quelques petites versions de VLC dans le passé. Alors là, si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a encore écrit Videolan Client. Et si vous êtes fort, vous voyez que c'est. Non? C'est quoi le film? Ouais, un tiers James Bond, et c'est lequel? Donc ça, c'est GoldenEye. Et c'est en fait c'est le premier DVD qu'on a réussi à lire avec VLC. Donc là, si vous voyez bien, c'est un gnome 1, quoi, un truc absolument inutilisable. En fait, c'est surtout important parce que c'était le premier DVD qu'on avait sous la main. Et c'est pour ça en fait, que toutes les versions de VLC en fait, ont été nommées par des noms de James Bond. Voilà, donc ça c'est les premières versions. Oui. Alors bon, ça c'est un GNOME 2, non? Un truc comme ça. Un 2.4. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Et donc là, c'est le premier lecture en fait, de fichiers TS en distant. La première version sous Mac avec un joli look glossy, complètement has-been. Ça, c'est la version que la plupart des gens ont connue en fait. C'est la 0.8.4 ou les 0.8.6 qui est écrite en WXWidget, une bibliothèque de widgets qu'il faut absolument pas utiliser. Voilà, c'est à ce moment-là en fait 2004 que les gens ont commencé vraiment à utiliser VLC. Il y a eu 1 million de téléchargements en 2005. C'est la première version qui a dépassé le million de téléchargements. Alors c'est sûr, aujourd'hui c'est un peu ridicule, mais... Ouais. Donc là, c'est la version sous Mac. Ça doit être un Mac OS 10, 2, 3, un peu plus moderne comme look. Puis là, c'est la première version sous Qt, sous Windows. Donc là, c'est ça c'est évidemment la meilleure version parce que c'est celle qui joue les poneys. Ça, c'est donc Mike, on a évidemment quelques brownies dans l'équipe des développeurs. Ça doit être un GNOME 3 à peu près. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que pendant très longtemps, ça a été géré par des étudiants sur leur temps de deuxième année, sur leur temps libre. Et puis, le reste, ça a été ensuite géré par une communauté de gens qui faisaient ça sur leur temps libre. Les gens ont tendance un peu à oublier quand on voit le nombre de gens qui utilisent VLC. Mais voilà. Ça, c'est Monsieur Sam Osvar, qui est un des papas de VLC. Cette photo, elle est bien ridicule. J'aime bien. Maintenant, en fait, donc avant, c'était donc à l'école Centrale Paris, géré par l'association du réseau de Centrale Paris. En 2008, en fait, moi, j'ai commencé à bosser sur VLC en 2005. Et en fait, en 2008, en fait, j'ai créé l'association Videolan et j'ai sorti ça de l'école Centrale. Pour plein de raisons, mais notamment maintenant, on arrivait au moment où il y avait plus de développeurs à l'extérieur de l'école qu'à l'intérieur de l'école. Et puis que l'école, grosso modo, nous a un peu mis dehors. Ce qui est quand même con, parce que quand je me balade et que je parle de l'école Centrale Paris, ils n'ont aucune idée aux États-Unis, ils n'ont jamais entendu parler, quoi. Alors que quand je parle de VLC, clairement. Donc c'est intéressant parce que c'est comment un projet étudiant devient plus connu que l'école qui l'a fait naître. Voilà, donc l'association, le but c'est de faire du logiciel libre et du multimédia, et les membres, c'est des développeurs, principalement de VLC. Alors comment on bosse? Grosso modo, on se voit deux fois par an. Une fois au FOSDEM en février à Bruxelles, dans la neige et dans le froid et dans la pluie. Pour ceux qui sont allés au FOSDEM, ils savent que c'est l'habitude. Et puis sinon, les Videolan Dev Days, que maintenant on organise en septembre, on fait venir pas mal de gens de la communauté et grosso modo de tous les gens du multimédia autour de VLC. On a toujours travaillé sur IRC par MailingList. On est passé à Git en 2007, donc plutôt un peu plus tôt que les gens. Et on utilise absolument uniquement des logiciels libres pour fonctionner, et ça c'est important. Voilà une petite photo des gens. Voilà. Alors, la cathédrale et le bazar, c'est clair pour les gens, ça vous évoque quelque chose? Bon. Un autre grand monsieur de l'open source et aussi un gros con, qui s'appelle Eric Raymond. A écrit un truc qui s'appelait La cathédrale et le bazar. Et grosso modo, l'idée, c'était que à gauche, en fait, on a vraiment des cathédrales où on arrive, c'est planifié, c'est du Windows, en fait. C'est des grosses, on arrive, il y a un plan, il y a la gestion de projet. Et puis, il y a l'autre partie qui est donc la partie finalement open source où on arrive et puis on va bien s'en sortir. Ouais, il y a de l'énergie qui va être perdue, mais au moins elle ne sera pas perdue en réunion. Et puis, on va fonctionner comme ça. Et puis au milieu, il y a plein de gens. Par exemple, Mozilla, ils font du libre, mais grosso modo, ils ne sont pas vraiment dans le bazar, quoi. C'est-à-dire que ça marche comme une grosse boîte, quoi. Et c'est une boîte qui a 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils arrivent, ils ont du marketing qui décide et ils font comme ça. C'est sûr, c'est bien parce que ce qu'ils produisent, c'est bien sûr du logiciel libre. Mais ce n'est pas la même chose que nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire, grosso modo, il n'y a pas de direction, et en fait, c'est les développeurs qui arrivent. C'est important parce que ça veut dire que, en fait, sur VLC, c'est toujours les devs qui ont le pouvoir. C'est-à-dire que tu codes ou tu fais quelque chose pour l'association, tu as ton mot à dire. Et notamment, c'est une des raisons pour laquelle on voit absolument des trucs complètement débiles dans VLC. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé la fonction puzzle de VLC. Vous irez regarder dans les options, il y a donc une petite façon de lancer votre vidéo et puis ça se met comme un puzzle, donc la vidéo elle est cassée et ensuite vous cliquez et vous drag and droppez pour refabriquer votre vidéo. C'est absolument génial quand vous regardez des films français sur un trio amoureux géré par je sais pas qui, des trucs trop chiants. Voilà, très très bien, complètement inutile. C'est absolument inutile, mais c'est pas grave. dans la dernière version de VLC, on a rajouté un filtre VHS pour les gens qui sont un peu nostalgiques. Et donc, de façon aléatoire, il y a des artefacts qui apparaissent. Et voilà, exactement. Voilà, et ben, y a une photo juste après, t'inquiète pas. Pourquoi ? En fait, la réponse, c'est en fait, on ne fait pas les choses parce que les gens ont besoin, on fait les choses parce que, un, ça nous amuse, et deux, parce que c'est maintenable. Et ça, c'est super important. C'est que VLC, malgré tout, c'est un logiciel qui a une qualité de code très élevée, alors qu'on fait des choses quand même assez chaudes, c'est-à-dire on fait du C, de l'assembleur. Voilà. Les mecs, quand on parle de C++, on parle déjà de haut niveau. Bon, c'est sûr que quand tu codes en Python, les mecs... mais ouais, mais en même temps, t'as 25 millisecondes pour afficher un truc, t'as 25 millisecondes, pas une de plus. Un décalage de 3 millisecondes entre l'audio et la vidéo, vous allez le voir. Donc on n'a pas le choix, hein. Je vais pas avoir un langage avec un garbage collector qui va décider de poser tout pendant 120 millisecondes. Donc ça, c'est quand même très important. Le code, il est mergé parce que je sais que ton code, bien sûr, tu vas me dire que tu vas rester toute la vie à aider à avoir ton code. J'en ai vu à peu près 700, puisqu'il y a 700 personnes qui ont contribué sur VLC. Les gens, au bout de 6 mois, ils partent. Ils ont changé de boulot, ils ont changé d'endroit, ils ont trouvé une femme, ils ont whatever, ils ont des vies et ils s'arrêtent. Donc l'important, le critère d'acceptation du code pour savoir si je vais le faire rentrer dans VLC, c'est est-ce que je vais pouvoir le maintenir ? Est-ce que ton code, je vais pouvoir le maintenir ? Et donc si tu fais un filtre qui sert complètement à rien, bah... j'ai pas vraiment de raison de t'empêcher de le faire, quoi. C'est un truc qui est très facile à maintenir et donc ça va fonctionner. Voilà, bon, pour les fans de Git, nous on fait que du rebase. On fait absolument pas de merge, ça permet d'avoir un historique assez clean. C'est assez important quand dans un projet comme VLC, on a plusieurs centaines de commits par semaine. C'est quand même assez intéressant. Alors pourquoi est-ce que VLC c'est devenu assez populaire ? Les gens qui étaient sous Linux un petit peu avant, pendant très longtemps ils ont utilisé MPlayer. Finalement, pourquoi est-ce que c'est VLC qui est arrivé finalement plus tard qui est connu ? Bah, plusieurs raisons. La première raison en fait c'est que c'est des modules. En fait dans VLC, le corps il ne fait absolument rien et tout est fait dans des modules. Alors vous me dites, ouais bon, je vois pas trop leur intérêt. Bah, l'intérêt c'est qu'en fait quand vous voulez faire un logiciel qui soit cross-platform, vous avez deux solutions. Soit vous faites un système finalement de modules où vous prenez le meilleur de chacune des plateformes. Sous Linux, vous allez sortir en Xvideo. Sous Mac, vous allez sortir en OpenGL. Sous Windows, vous allez sortir en Direct3D pour afficher de l'écran. Soit vous dites, ah bah, je vais utiliser la technologie la plus commune et je vais essayer que ça fonctionne. Alors ça, c'est très joli sur le papier. Dans la vraie vie, pour les gens qui ont fait un peu de jeux vidéo et qui ont essayé d'installer OpenGL sous Windows XP, ils en sont revenus. C'est absolument impossible. Évidemment, quand on fait des trucs de précision comme de la vidéo, bah, souvent ça merde, quoi. La deuxième raison, c'est qu'en fait, on fait un truc qu'on appelle du C++ ou C-. C'est-à-dire qu'on fait en fait une sorte d'objet en C, en abusant des pointeurs de fonctions et des structures de pointeurs de fonctions. Et c'est finalement assez élégant parce que ça marche assez bien. Ça permet en fait de rien mettre dans le corps et de gérer tout dans les modules. Et vos modules, ils sont chargés au runtime et ils réécrivent les pointeurs sur les fonctions et ça marche pas mal. Et le dernier, c'est le network oriented pour regarder vos films adultes, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, VLC. Donc en fait, on a un corps qui est assez petit, hein, c'est 100 000 lignes de code. C'est pas ouf. Et le corps, en fait, il sert juste à en fait faire l'abstraction entre plateformes, à gérer des modules, à gérer le réseau, grosso modo, et puis c'est tout. Et ensuite, tout est fait dans des modules. Et l'interface est un module, donc vraiment, dans VLC, on peut rajouter et faire un peu ce qu'on veut, et ça, c'est une des forces de VLC. Voilà, donc c'est ce que je vous racontais. Maintenant, il y a un truc qui s'appelle libvlc pour faire votre propre application, pour prendre le moteur de VLC, pour pas avoir à tout recoder. Et c'est ce qu'on utilise. Voilà. Alors, je vous disais, l'objet C, en fait, par exemple, pour une sortie audio, en fait, vous voyez qu'en fait, on a quasiment que des pointeurs sur fonction, et même les callbacks, c'est des structures de pointeurs sur fonction. Et en fait, c'est pas... Ouais, ça fait un peu peur, mais après, c'est assez simple. Résultat, en fait, et puis on a, pour tous les objets VLC, hein, ce qu'on appelle les VLC Common Members, et ça permet, en fait, de faire une sorte d'introspection assez rapide, et ça marche bien, et ça évite d'avoir à déployer des grosses machineries. Alors, c'est sûr, coder maintenant, C++, c'est plus facile. Début des années 2000, les compilos C++, c'était quand même pas ça, hein, surtout sur toutes les plateformes. Alors, la dernière slide technique pour vous montrer comment ça marche. Grosso modo. C'est pas grave. Ouais, mais non. Si, si. Bon, c'est mon jean qui est pas très pratique pour les souris. Alors, comment ça marche, grosso modo, quand vous lisez une vidéo? Protocole, grosso modo, c'est HTTP, file, DVD. Donc, c'est grosso modo l'explication de où aller récupérer les données. D'accord? Donc, genre, vous avez une URL, HTTP, 2.//, fichier.avi. C'est récupéré, et là, vous avez donc le format. Donc ça c'est AVI MKV, donc c'est la boîte. Et dans la boîte, vous allez en extraire plusieurs pistes. Une piste de sous-titres, une piste de vidéo, une piste audio, des métadonnées. Et puis les sous-titres, vous allez rendre ça. Les vidéos, vous allez les filtrer, puis les sortir. Et puis là, ici, c'est votre œil, et puis là, c'est votre oreille, grosso modo. Et puis potentiellement, vous pouvez réencoder et renvoyer sur le réseau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit un truc bizarre sur ce schéma? Alors la synchronisation, ouais, c'est le corps en fait qui fait ça entre tous, à ce niveau-là. Parce que je te dis juste pour te montrer avec d'autres. Non, c'est plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi cette flèche elle va dans ce sens-là? Quand même bizarre, non? Alors, en fait, VLC, quand vous allez sur YouTube, vous allez voir YouTube. Bon, alors pas pour tout le monde, désolé, mais grosso modo, ça arrive, ça télécharge tout, 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 tout. Et tout ce que ça peut. Alors résultat, ils ont des algorithmes au niveau des serveurs pour te pas t'envoyer trop de données. Mais en fait, ils savent pas du tout quelles sont la consommation de données. Donc si jamais t'arrives, ça se lance et que finalement tu quittes ta page 10 secondes après, t'as peut-être téléchargé 50 mégaoctets de vidéo pour rien. Dans VLC, c'est l'inverse en fait. C'est le format qui sait où il en est avec la synchronisation et qui dit, oh, attention, j'arrive à 1 seconde de la fin de mon buffer. Et donc en fait, c'est un buffer constant en temps où on dit donne-moi un peu plus de données, donne-moi un peu plus de données, donne-moi un peu plus de données. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est très 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 économe au niveau réseau puisque ça ne demande que ce dont on a besoin. Mais résultat, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est un peu trop technique, on s'en fout. Ouais. Voilà, on a changé la licence du moteur de VLC qui est passé de GPL à LGPL. Pour que les gens puissent l'utiliser dans d'autres applications qui ne sont pas forcément avec des licences compatibles avec la GPL. Bon, je vais vous montrer des trucs utiles, complètement inutiles avec VLC. Alors, avec VLC, on peut donc. Ouais, vous voyez VNC, Real VNC et RDStop. Ouais, VLC, il est capable d'être client RDStop et VNC. Donc, en fait, vous pouvez lancer votre VLC pour aller faire du remote desktop sur des machines très loin. Ça marche même avec la souris. Complètement inutile, génial. Il y a des façons en fait dans la playlist d'avoir de l'intégration de contenu, de podcasts et de choses comme ça que vous pouvez naviguer. Vous pouvez évidemment faire du screen grab. Alors c'est super cool le screen grab, mais en général c'est assez lent, sauf quand on a des solutions vraiment spécifiques. Mais par contre, ça permet de faire une mise en abîme absolument inutile et complètement géniale que tous les trois mois sur Reddit, il y a oh, Today I Learn, je peux faire une mise en abîme géniale. Voilà, complètement inutile, génial. On peut faire des mosaïques. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, VLC, en fait, ça permet de faire plus que juste lire de la vidéo. Et donc, en fait, là, c'était la mosaïque que vous aviez chez Free il y a quelques années. Et en fait, on peut lire en fait plein d'entrées. VLC va faire le mixing de toutes les entrées et les afficher, voire les réencoder. Et pendant très longtemps, les gens qui étaient chez Free, ils voyaient ça et c'était VLC de l'autre côté. Alors aussi, ça nous permet de faire du picture in picture ou du wall. Donc le wall, l'intérêt, c'est qu'en fait, vous pouvez splitter la vidéo sur plein et en fait, vous faire des murs complets d'écran. Vous prenez vos écrans LCD, vous enlevez les bezels, vous accrochez tout ça. Ça permet d'être un truc super beau et ça vous coûte absolument rien. Voilà, et en plus, on peut faire ça, et en plus, on peut faire ça à travers le réseau avec une synchronisation qui s'appelle NetSync, où en fait, on envoie les timestamps, et comme ça vous permet de ne pas acheter un truc qui coûte une fortune. Évidemment, on sait lire du karaoké et du MIDI, parce qu'il.
parce que.
Évidemment, il y a une interface en ligne de commande qui est en NCURSE, avec évidemment l'écran, lui, ne l'est pas. Mais si vraiment vous voulez, on a évidemment la sortie en ASCII art. Alors, quand même, on ne déconne pas, c'est de l'ASCII art, c'est pas de l'Unicode. Donc le mec, donc c'est Sam Osvar, hein, celui dont on a parlé tout à l'heure, qui est un des seuls génies qu'on ait en France. Et ça marche avec, et donc c'est du 256 couleurs, pas plus. Hein, donc non, vraiment incroyable. On a évidemment une interface web et bien sûr plein d'autres trucs dans VLC que évidemment vous ne connaissez pas et probablement moi non plus. Voilà. Qui a un Android dans la salle? Ok, qui a un téléphone autre qu'Android dans la salle? Ah, iPhone? Non? Windows Phone? Waouh. Ok. Autre chose que... Non, ça compte pas, ça. T'as quoi, toi? Alors, on a porté VLC sur Tizen, mais bada, faudrait pas déconner, quand même. Voilà, on a porté VLC sur Android. Ce qui est important, c'est qu'on continue à avoir une version qui marche depuis Android 2.1, alors que tout le monde est en train de dropper le support pour 4.0. Évidemment, tout est open source. Et contrairement à la version desktop, en fait, on a vraiment une base de données multimédia pour faire de l'audio et de la vidéo. Voilà, bon, l'historique. Donc ça, c'était la première version, qui n'était pas très jolie. Pendant très longtemps, on avait cette espèce de warning qui vous disait que attention, ça va tuer votre chat, détruire votre maison et démarrer l'apocalypse Maya. On a dû enlever ce warning parce que les gens étaient vraiment flippés. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment des gens, on a eu vraiment des gens qui nous envoyaient des mails en disant mais j'ai pas envie que ça brûle chez moi. Ok. Donc moralité, il est impossible de faire de l'humour avec 1 million de personnes en même temps. Hein. On peut pas faire 1000 fois 1000 personnes et de l'humour. Voilà, après, bon, ça a pas mal évolué jusqu'au moment où on est passé au mode holo. Ouais, c'était la version holo. Et quand on a fini d'être holo, et ben, Google a décidé qu'il fallait faire du modern UI. Donc évidemment, c'était trop tard. Voilà, ça, c'est la version que les gens ont actuellement. Pour la version 3.0, on a une version qui marche sur Android Télé. Et une version qui est un peu plus moderne, qui a été portée sur Chrome OS. Un truc qui n'est pas très utile en France. On a évidemment une version sur iOS qui existe depuis quelques années, sur iOS 6 et sur les iPads. Et évidemment, une extension sur les Watch. Alors, on ne peut pas regarder si on filme depuis sa montre. On y bosse, hein, ça va arriver bientôt. mais c'est quand même pas mal pratique pour faire du contrôle. Voilà, ça c'est la version sur l'Apple TV qui est sortie. Et puis pour les gens qui sont sous Windows Phone, voici la version WinRT. Donc qui fait en C# Universal Platform, qui va permettre de porter VLC sur la Xbox One rapidement. Donc en juillet, vous pourriez avoir VLC pour regarder vos films que vous achetez légalement, évidemment, sur votre Xbox. Alors, comme je disais, on n'a pas vraiment de version sur Bada, mais on a une version sous Tizen, qui marche à peu près comme la version sous Android. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il faut que vous nous aidiez, parce que c'est facile de contribuer. Alors, la façon la plus simple de contribuer, en fait, c'est d'utiliser VLC et d'en parler à vos amis, de leur installer sur leurs ordinateurs, et d'enlever les autres merdes qu'ils ont, mais surtout faire la pub. Ensuite, bah, coder, en fait. Alors, rapporter des bugs, des traductions, mais surtout coder. Ça a été quand même commencé par des gamins, c'est un projet qui a été commencé par des gamins qui avaient votre âge, pour la plupart, 20 ans, 21 ans, qui était en école d'ingénieur, qui n'était pas plus intelligent que vous, qui était juste plus borné et plus et qui y croyait. Donc on peut vraiment faire des trucs incroyables et on n'a pas besoin d'être à Paris ou dans une grande école pour le faire. C'est comme ça que ça marche, le logiciel libre, et ça c'est quand même top. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, là, la prochaine version, c'est la version 3. On a déjà fait plus de 6300 commits, plus quelques milliers sur les versions portables. L'idée, en fait, c'est en fait de réussir à faire une version que je vais faire sur toutes les plateformes en même temps. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, si vous regardez bien, en fait, maintenant on a un peu une bataille entre Google, Apple et Microsoft. Et la question, c'est est-ce qu'on peut se trouver à chaque fois sur leur desktop, sur leur mobile et leur télé, avec une bonne version de VLC? Eh ben, on est en train de le faire, hein, c'est en train d'y arriver. Bon, évidemment, tout le monde se moque de moi quand je dis que je vais réussir à faire une version 3.0 en un seul fois. Parce que ça veut dire quand même qu'il faut faire une version pour deux versions pour Windows, 32, 64 bits, une version sous Mac, un nombre important pour des distributions Linux, une dizaine de versions sur Android, puisqu'il y a évidemment une dizaine d'architectures sur Android, une version sous Chrome OS, Apple iOS 32 bits, 64 bits et ARM 64, Apple TV, évidemment, Android TV, Xbox One, Windows Phone, Windows Phone 10, c'est Windows Mobile 10, et la version Windows RT plus la version Xbox One. En même temps, avec des gens qui sont bénévoles. Bon, ok, on y croit. Voilà, pas mal de travail a été fait sur le browsing de vos NAS directement depuis VLC pour tous les films que vous avez légalement téléchargés et mis sur votre NAS et pas du tout que votre Freakbox a téléchargé en torrent directement. C'est pas du tout le genre. Voilà, et ça vous intéresse pas, mais on a un nouveau moteur de sous-titres qui a été développé par un Syrien qui est à Alep, dans une histoire complètement délirante. Je vous conseille de regarder la vidéo où je raconte ça au FOSDEM cette année. Et qui nous a permis en fait d'afficher les sous-titres en Malayalam, qui est donc une langue indienne, correctement. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, je prends vos questions. Allez-y, questions. Il n'y a pas de questions que je réponds pas, enfin presque. Allez-y. Je réponds ça après le micro. Ok, d'autres questions? Ouais, notamment t'as un filtre gradient de cel shading qui te t'as l'impression en fait d'avoir une sorte de dessin animé sur tous les films. Allez-y, je mange pas, hein. En fait, l'association Vidolan est financée par des dons, ouais. En fait, on a pas mal de dons, mais en même temps, c'est ridicule. Un ingénieur français, il coûte 100 000 euros l'année. On n'a pas 100 000 euros de dons par an. Voilà. L'argent sert juste à acheter des serveurs et à faire des conférences.
Et quelle est la motivation maintenant, vu que ça fonctionne bien sur beaucoup de plateformes?
En fait, ça fonctionne jamais bien. Ça c'est l'enfer du décor. Et en fait, surtout, ça fonctionne bien parce qu'en fait, c'est mis à jour en permanence. Il y a toujours des nouveaux formats vidéo, il y a toujours des nouvelles versions de Windows, macOS, Linux, un système B qui arrive à gauche, qui casse tous tes trucs, etc. Donc en fait, t'es obligé de... La maintenance est quand même assez importante. Et deuxièmement, tout ce qui est téléphone portable, iPad, tablettes, et téléconnectés font qu'en fait, il y a beaucoup de chemin et il y a beaucoup de choses à faire sur ces plateformes. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Allez, d'autres questions?
Pourquoi sur Android ça a été aussi long?
En fait, parce qu'Android c'est de la merde.
C'est à cause de la RIC, c'est ça? C'est la RIC qui est pas standard, hein.
Ouais, bien sûr, parce qu'en fait, voilà, ça c'est un peu l'envers de la médaille, c'est qu'en fait quand on commence à faire des choses un peu techniques comme VLC, on se rend compte quand même que des gens incompétents, il y en a partout, même s'ils sont chez Google, et même s'ils sont payés 300 000 dollars par an et qu'ils sont capables de calculer le meilleur moyen pour faire marcher un gars sur 9 ponts à cloche-patte et être capable de faire un sorting de 1 tera de données sur 1 mégabit de RAM, les trucs dont on s'en tape, parce que de toute façon, la plupart des gens, en fait, c'est des ingénieurs et il faut prendre des solutions. En fait, la première version sur Android, elle était en 2012 et en fait, pendant très longtemps, elle était bêta parce qu'en fait, c'était quand même particulièrement buggé. Alors, il y avait deux façons de faire. Soit la première façon qui est, on fait qu'un player pour Android et donc ça va être assez facile. Soit on porte un truc correctement, open source, en avançant correctement et en ayant le même core qui marche partout. Et nous, on fait les choses bien, donc voilà, ça a pris du temps. Mais évidemment, la libc d'Android, C'est même pas descriptible tellement elle est mauvaise, quoi. C'est-à-dire que même la MSV CRT 4 qu'il y avait sous Windows 95 était moins pourrave. Faut le faire quand même. Non, non, mais enfin, faut le faire. Ouais. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Non. Non, mais je rigole, mais en vrai, non. En fait, sur chaque plateforme, t'as un concurrent, quoi. Sur Android, t'as un truc qui s'appelle MX Player, qui est le truc qui est le plus connu, mais ils ne font que ça. Et puis là, la version qu'on sort maintenant, elle est plus rapide, d'ailleurs, dans la plupart des cas, que eux. Et voilà. Sous Windows, t'as encore des puristes qui utilisent MPCHT avec des filtres direct show et qui passent des heures et des heures à paramétrer leur machin. Le problème, c'est que ça marche plus sous Windows 10, donc tu vois, c'est... Voilà, mais il n'y a pas vraiment de concurrence cross-platform. Et d'autres questions ?
Est-ce que vous allez simplifier le menu de synchronisation des pistes ? On peut régler plus ou moins secondes par rapport à la piste de sous-titres et la piste vidéo ? Parce qu'on ne sait jamais si on appuie sur moins ou plus, si ça va la décaler.
C'est toujours le problème, en fait. C'est qu'en fait, comment t'expliques à quelqu'un si le plus, c'est une augmentation du délai ou une augmentation... Et surtout, est-ce que ta piste principale, c'est la vidéo ou l'audio ? Alors, je sais pas. Je pense qu'on a fait un peu mieux. Notamment, maintenant, il y a une fonction où tu marques le son et ensuite tu marques la vidéo et ça se cale automatiquement. Voilà. D'autres questions ? Non, c'est pas hyper complexe.
C'est
à intégrer dans un logiciel ?
Ouais. Non, mais au niveau de la librairie.
Ouais, bah, évidemment, oui. Attends, c'est pas mon PC, donc 30 secondes. Non, t'inquiète pas, pars pas. Touloulou. Je l'ai pas dans cette présentation là. Ah bah si. Évidemment. Non. Alors, c'est hyper simple. Pour créer une utilisation de libvlc, tu fais libvlc new, tu crées ton VLC. Tu fais libvlc media new from location, grosso modo, tu crées ton media player et tu fais play. C'est strictement, en moins de 100 lignes, tu as ton lecteur multimédia. Ça marche sur toutes les plateformes, c'est de la même façon. Donc vraiment, c'est hyper simple. C'est beaucoup plus simple que tous les autres frameworks que tu peux avoir en vidéo. Et ça marche sur toutes les plateformes. Et on a plein d'exemples en WX, en GTK, en Qt, sur Android, en Java. On a la même chose sur iOS. Donc non, il y a vraiment de quoi faire tout. Et puis surtout, ça utilise libvlc qui est déjà utilisé par VLC, donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas faire la même chose que ce qu'on fait avec VLC.
Moi, ce que je voulais faire, c'était peut-être la difficulté, c'est que là, on arrive à faire un bien débrouillé, à faire un play dans le sens en avant, mais dès qu'on veut faire de l'image par image en reculant, alors là...
Mais en fait, c'est juste que VLC, c'est pas un moteur de montage vidéo.
C'est pas du codec, c'est
non, c'est en question... En fait, le problème, c'est que...
L'image dans l'autre sens, c'est pas évident.
Voilà, exactement. Donc en fait, il faut utiliser des frameworks de montage comme MLT. Mais c'est pas pour faire un player. Ok,
ouais,
d'autres questions ?
Si j'ai des fichiers MKV sur mon serveur distant,
ouais.
Comment je peux faire pour les lire avec VLC sur mon réseau local ?
Bah, tu donnes l'URL en HTTP.
Ouais.
Voilà.
J'ai rien installé sur le serveur spécial, vu qu'avant il y avait VidéoLAN serveur.
Non. Mais c'est quoi ton serveur distant ? Avec un WebDAV par exemple ? Ouais, donc en fait, en plus, dans la version 3.0, c'est un des gros boulots, c'est qu'en fait, maintenant, on est capable de browser directement depuis VLC des FTP, SFTP, FTPS, NFS, si tu veux le faire dans la old way, du HTTP, du WebDAV, du Samba, et donc tu mets ton URL et ça permet de te browser, et en fait, quasiment un explorateur de fichiers. Un autre truc sur lequel on bosse,
tu peux faire aussi ça. C'est en fait, on est en train de bosser sur le support du torrent. Alors évidemment, ceux qui n'ont pas beaucoup de bandes passantes, ça va être un peu dur. Désolé, mais grosso modo, on va avoir une intégration où en fait, tu dropperas juste ton torrent et ça partira et ça te mettra à le streamer directement ton torrent. Ouais, bah ouais. Bon, faut avoir du réseau. Ouais. Ouais. Mais plus de CPU. Bidon. En fait, le streaming, ça veut rien dire. Hein. Ça veut juste dire récupérer des réseaux, des données sur un réseau. Et les gens s'imaginent que c'est très compliqué. Allez, dernière question, et puis après, je me barre. Après, d'autres questions? Rien? Question personnelle, non? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Bien. En fait, nos serveurs étaient à l'école et prenaient beaucoup de bandes passantes. Et donc, en fait, on s'est fait hoster par Free, par la fondation Free. Mais en fait, l'école est complètement con. C'est qu'à partir du moment où le cœur, c'est-à-dire le truc, tu faisais les releases, tu t'occupais de ton serveur FTP parce que c'était le truc important, en fait, ça part de ton école et tes étudiants, bah, les étudiants, ils se sentent beaucoup moins proches. Et donc, évidemment, bah, ça a juste accéléré le départ. Ouais. Donc, je réponds après. Maintenant, moi, j'ai monté ma start-up autour de la vidéo et de VLC. Ce genre de choses, ouais. Réparation de bugs, etc. Ouais. Android. En fait, tous les 3 mois, je change de plateforme, à peu près. Parce que, de toute façon, il faut tester, quoi. Donc, j'utilise. Tu me verras sous Mac, tu me verras sous Linux, tu me verras sur Windows. Je suis un expert Windows, hein. C'est horrible à dire, hein, mais finalement, avec VLC, en fait, je suis maintenant un expert Windows. Connais beaucoup plus sur les internals Windows que pas mal de gens. Je suis vraiment ouvert sur toutes les plateformes. J'ai codé sur quasiment toutes les plateformes, à part MenuOS. Hein, je n'ai pas encore fait ça. Mais non, en fait, Android, tu peux très bien voir Android et dire bah ouais, j'ai utilisé Android pour des raisons, mais c'est que tu peux quand même accepter que c'est de la merde techniquement. Alors, les dernières versions, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Mais bon, pareil, toi, tu es sur Android, tu as un téléphone qui fait quand même un multi-quad-core ou un Galaxy S6 avec 8 cores. Et sauf que le moindre touch que tu fais, il met quand même plus de 300 millisecondes à être processé, quoi. C'est chaud, quoi. Ouais, non, ils ont pris des décisions techniques qui sont des décisions qui sont pas techniquement justes, mais pour des raisons business. Et ça veut pas dire qu'ils ont tort. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Puis même ton système de mise à jour sous Android, on n'est même pas dans le mode calamiteux, quoi. Je veux dire, calamiteux, ça commence même pas à décrire que tellement catastrophique que c'est. C'est bon. Alors, je ne fais plus jamais, jamais, jamais de comité de standard. Qu'ils aillent se faire foutre. Ça m'intéresse pas. Les mecs, ils sont tous là, ils ont tous leur agenda, ils ont tous envie de faire des trucs pour leurs raisons, pour des questions de pognon, etc. Ah oui, mais j'en ai besoin parce que je veux. J'ai mon encodeur. Ouais, mais ton encodeur, il est pourri, c'est pas de ma faute, quoi. Et voilà, tout le monde tire son bout du rat et c'est une question de pognon. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux faire de la techno qui marche. Et. Déjà, faudrait. En fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas de bon standard, quoi. On en est dans le cas où il n'y a pas de bon standard. Le moins pire, ça va être du MKV, H.264 ou du VP9, quoi. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus.